Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots d'introduction. Alors, ce qui m'intéresse, c'est l'identité en Christ, qui va avec la liberté en Christ. Donc, on va parler de choses comme ça. Qu'est-ce que Christ veut faire de nous ou veut nous amener à devenir, hein? Et ensuite, une fois qu'on sait un peu ce que l'on est ou qu'on va devenir, quelle est notre responsabilité, notre engagement dans ce monde, autour de nous, entre nous, dans la société, etc. Voilà les choses qui motivent un peu mes explications. La troisième chose, c'est qu'on est tous dans la même barque, on est tous dans la même galère, c'est-à-dire qu'on n'est pas, différents les uns des autres, fondamentalement, on est logés à la même enseigne. J'aime bien l'image de l'aviron, parce que dans l'aviron, il y a un seul barreur. Normalement, c'est Dieu pour le chrétien, mais pour celui qui n'est pas chrétien, ben, ce n'est pas Dieu. C'est d'autres dieux. Mais on ne voit pas où on va. C'est Dieu qui voit où on va, que ce soit la vie d'église, que ce soit la vie tout court. Et on ne voit le paysage qu'après. On voit les choses qu'après. Pour ça, j'aime bien l'image de l'aviron. Et puis, ici, ben, les pelles ne sont pas forcément très bien synchronisées parce qu'on apprend. Et nous-mêmes, on est aussi en apprentissage sur Terre, tous les uns et les autres. Donc, dans ce que je vais dire, ce n'est pas pour donner des leçons, je ne suis pas donneur de leçons, je vis ce que je vais vous dire comme les uns et les autres. Et enfin, eh bien, au fur et à mesure qu'on progresse dans la vie, on avance tous un peu ensemble. Alors faisons un pas aujourd'hui, essayons. Ce dont je vais parler donc aujourd'hui, c'est les relations. On a déjà parlé pas mal pendant l'introduction. Et plus précisément des difficultés dans les relations. Si les relations étaient faciles, il n'y a pas besoin d'en parler. Mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet que je veux aborder, je vais donner quelques illustrations. Et comme tout ce que je vais dire est assez dense et assez long, peut-être que vous ne retiendrez rien de ce que je vais dire. Donc si vous pouvez retenir simplement ce que j'ai marqué, Jésus l'aima, puis il dit, ce sera déjà super. Ça vient de Marc 10. Ça, c'est quand Jésus parle au jeune homme riche et qu'il va lui annoncer qu'il doit se débarrasser, de se défaire de toutes ses richesses. Et il sait que ça va le gêner, que ça va l'attrister. Et le texte dans Marc dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima, puis il dit. Jésus l'aime avant, c'est clair. Mais il s'exprécise à ce moment-là, avant de parler, il a d'abord une considération bienveillante pour la personne. Donc, quelques illustrations. Les trucs évidents déjà. Dans le cas du travail ou n'importe où, quand on reçoit une frustration, on peut très vite se mettre en colère et la colère est légitime. Quand elle est légitime, elle est normale. Ce n'est pas une mauvaise chose, la colère. La seule chose, c'est comment on la gère derrière. Et le réflexe peut être d'écrire, d'envoyer des missiles, en gros, gras, rouge, comme je l'ai mis, et moi, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé de ne plus le faire non plus. En général, j'écris le mail, et ensuite je m'arrête, je prie et je fais autre chose. Mais l'envie est là, parce qu'il y a effectivement quelque chose à dire, mais peut-être pas de n'importe quelle façon. Est-ce que je crée de la relation quand j'envoie mon missile? C'est pas sûr. Du moins, je crée une relation particulière. Exploser en réunion, ça aussi, on peut le faire. On apprend que le projet est arrêté parce que le budget est coupé, etc. Tac, il y a des gens qui ne supportent pas ça, pof, ça peut dégénérer. Exploser en réunion, on peut le faire au travail, on peut le faire aussi entre nous, c'est tout à fait possible également. Bon, plus subtilement maintenant, là je vous donne un témoignage personnel, où on parle de difficultés relationnelles. Pendant longtemps, j'ai été incapable de bien gérer mes anniversaires, de supporter l'anniversaire. Et je m'explique, je voyais ça avec, comment dire, un malaise, avec cette mise en avant. Et ça me gênait qu'on me mette en avant. Et en même temps, je sentais que ce sentiment n'était pas légitime. D'un côté, j'avais envie de me réjouir, et d'un côté, j'avais envie de fuir cette situation-là, de ne pas être ce jour-là. Et ça, c'était lié à une vision déformée de Dieu, de moi et des autres. Autant de mensonges, autant d'entraves qui m'empêchaient d'être finalement de recevoir les signes de reconnaissance positifs qui sont si nécessaires à la vie. Autant d'entraves qui m'empêchaient d'entrer pleinement en relation avec les autres. Et finalement, autant d'entraves qui m'empêchaient d'être pleinement reconnaissant pour l'amour que les autres voulaient me donner et pour la vie que Dieu me donnait. Au point que parfois, je regrettais même d'être né et d'en vouloir à Dieu pour ça. Donc c'est dire si le dysfonctionnement était fort. Et là, je ne parle pas de conflit avec les autres. Je parle de relation avec soi-même, avec Dieu, et qui a des conséquences sur les relations avec l'autre ensuite. Et pour la petite histoire, je suis chrétien depuis 19 ans. Pas l'âge de 19 ans, mais ça fait 19 ans que je suis chrétien. Et cette prise de conscience de ce que je viens de vous dire, de cette vision déformée, etc., et je dirais, et cette guérison qui en est suivie, c'était il y a un mois. Donc ce n'est pas les années qui font la maturité. Hein ? Et maintenant, je peux dire que je suis content que Dieu m'a donné la vie un 12 juillet. Mais avant, non. Il a fallu passer par un cheminement pour reconstruire des relations avec soi-même, avec Dieu et les autres. Troisième exemple, harcèlement ou trahison entre votre enfant et son copain à l'école, ou au sein de la famille, entre le frère et la sœur. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Mon enfant est harcelé par l'autre. Mais si tu es chrétien, tu dois pardonner. L'ami aime en tout temps. L'amour couvre une multitude de péchés. Jésus a dit d'aimer ses ennemis. Puis dans une famille chrétienne, de toute manière, les frères et les sœurs, ça s'aime. Ça ne se bat pas. On peut dire ça. Mais qu'est-ce que l'on fait quand on fait ça ? On est dans une relation dominant-dominée entre les deux enfants. Je vais légitimer celui qui domine et qui écrase l'autre dans de manière injuste. Et celui qui est dominé, juste lui apprendre, si tu es chrétien, t'acceptes comme ça et tu te tais et c'est bon. Et ces deux personnes-là vont grandir toujours dans une relation dominant-dominée. Et ils vont, à l'âge adulte, être toujours dans une même relation. Et dans l'Église, quand ils arriveront, ils seront toujours dans une même relation. Celui qui est dominant sera toujours content de son coup, très à l'aise. Celui qui est dominé aura du mal à comprendre que l'amour de Dieu est aussi justice. Dieu m'aime, ouais, mais mes parents, ils m'aiment en même temps et ils m'ont fait avaler une injustice, quoi. Et Dieu, il fait pareil, alors. On biaise par des paroles qui voulaient être bienveillantes et qui ont, quelque part, des fois du vrai. L'ami aime en tout temps, ouais, super. Mais derrière, c'est comment on extrait de son contexte. Et avec ça, on va arriver à construire des gens qui ne vont pas développer des relations saines entre eux. Dernier exemple. L'image personnelle de la personne est tellement dégradée qu'elle tombe dans la dépendance. Votre frère, votre ami, votre enfant est dans la dépendance. L'alcool, la drogue, la pornographie, le jeu d'argent, tout ce qu'on veut encore, l'anorexie. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce que j'ai une recette toute simple ? Son image est dégradée, mais Dieu t'aime, tu as de la valeur. Non. J'ai pas de valeur, je ne vaux rien. Mais si, prie, Dieu t'aime. Mais ça fait 10 ans que je prie. Il n'y a rien qu'à changer. Et tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Non, je t'ai dit, les choses n'ont pas changé. Ça fait 10 ans que je suis dans l'alcool et je ne peux pas m'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait avec des paroles qui ont pourtant l'air d'être vraies, qui ont l'air d'être bonnes ? On enferme, on emprisonne la personne dans son problème. Et peut-être que de la même façon que tout à l'heure, pour la question du harcèlement, on aurait pu dire « ta colère, elle est légitime, va lui dire que tu te sens blessé et demande des explications », là, on pourrait dire « je vais chercher à comprendre la souffrance qui est d'abord avant la dépendance ». Et là, on va développer d'autres paroles et on va développer d'autres types de relations. Donc, on se trouve devant des choix. On est dans des situations qui sont souvent complexes. Les relations, c'est complexe. Chaque situation est unique. Et si chaque situation elle est unique, elle apporte de la nouveauté à chaque fois. Il y a de l'inconnu. Et dans l'inconnu, on ne sait pas comment réagir. On ne sait pas quoi dire. Et très vite, on voit que nos recettes spirituelles prêtes à l'emploi, elles ne marchent pas. Les versets tirés de leur contexte, ça a l'air pas mal, mais en même temps, c'est souvent inadapté. Et ça peut rajouter de la souffrance à la souffrance. Au point que certaines personnes peuvent dire « j'ai beau savoir que Dieu m'aime, j'y crois pas. Je ne m'aime pas et l'autre ne peut pas m'aimer non plus. » Et finalement, je me sens isolé. Des gens isolés, il y en a des centaines dans le monde, des centaines de milliers ou de millions. Et même dans l'Église, on peut avoir des gens qui se sentent isolés, même en venant depuis des années, pendant toutes les semaines à l'Église. On peut se sentir isolé parce qu'on ne se sent pas rejoint. Parce qu'on a effectivement des difficultés à rentrer dans les relations, pas juste parler de la pluie et du beau temps, mais d'entrer dans les relations profondes et gérer la différence et l'inconnu qui sont intrinsèquement liés à la relation. Parce que l'autre, je ne sais pas comment il va réagir. Alors, les relations, Jésus l'aima, puis il dit. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est d'abord l'œuvre initiale de Dieu. Qu'est-ce qu'il a voulu et quelle mission il nous donne dès l'origine. Ensuite, on verra que la chute a rendu les choses beaucoup plus compliquées. Mais on passera un peu de temps là-dessus, parce qu'il est important de comprendre tout ce que la chute va dégrader en nous, va casser, et toutes les entraves que ça peut avoir pour notre mission. Ensuite, on verra si la conversion améliore la situation ou pas. Est-ce que ça change quelque chose? Et finalement, est-ce qu'on peut rentrer à nouveau dans notre vocation? Et pour ça, donc, on s'appuiera sur les textes qu'on a lus tout de suite et puis sur d'autres et d'autres ouvrages également. Alors, qu'est-ce que Dieu commence par faire au commencement? Au commencement, il commence. Il commence par parler. Dieu parle dans le chaos, dans ce qui n'est pas. Au début, il n'y a rien. Et il dit une parole, il dit que la lumière soit. Dieu emploie la parole pour créer à partir de rien du tout, dans l'inconnu. Et ensuite, il va séparer. Il sépare la lumière des ténèbres. Il met de l'ordre. Et il procède toujours par ce principe de séparation-création. Il sépare la lumière des ténèbres, il sépare l'eau de la mer, etc., etc. Pour créer un environnement plus propice à la vie. Et il le fait en parlant, pour créer de la beauté et pour créer de la relation. La relation entre lui et sa création, et puis au sein de la création elle-même, entre l'homme et la femme, et entre les humains et les animaux, et l'environnement qui va autour. Et à nous, il nous confie la poursuite de cette mission créatrice. Qu'est-ce qu'il va dire à l'homme? Il va lui demander de nommer les animaux. Et l'homme ne connaît pas les animaux. Il est là devant l'inconnu et lui dit « à toi de le faire ». Et il ne va pas l'aider. Et à l'homme, l'homme va devoir parler lui aussi, prononcer des paroles pour dire « ça c'est une autruche et ça c'est un canard ». Pourtant il n'y connaît rien, mais c'est la mission que Dieu donne à l'homme. Il va lui demander aussi de cultiver, c'est-à-dire prendre soin, d'entretenir, créer aussi un cadre propice à la vie, créer de la beauté. Et enfin créer de la relation, multiplier. Multiplier c'est œuvrer à la vie là également. Et forcément, si on multiplie, on va être ensemble, on va interagir. Donc, il va falloir créer des relations édifiantes entre l'homme et la femme et aussi entre les différentes générations. Parce qu'on est avant la chute, il n'est pas prévu de mourir à cette époque-là. Donc, il y aura parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., etc. Donc, ça va faire du monde. Du monde avec des âges différents, avec des caractères différents. Et tout ça, ça ne va pas couler de source. Donc, on est dans un contexte de différence et d'inconnu. Créé dans la différence et dans l'inconnu. Différence masculin-féminin, différence encore ou inconnue, la grossesse, puisque là, ils n'ont jamais vu connaître de grossesse, ils ne savent pas ce que c'est. Être une mère, c'est encore nouveau. Être un père, c'est encore nouveau. Et un bébé, ils n'ont jamais vu de bébé non plus. Donc on est totalement... Ce qui les attend, c'est comme dans la barque, derrière, ils n'ont jamais vu. C'est derrière eux, plutôt. C'est devant eux, mais ils ne le voient pas. Et il va falloir qu'il s'élance comme ça dans ces choses inconnues. Et comment? En parlant. Parce que pour se découvrir et pour se comprendre, il faut bien ouvrir la bouche pour parler, pour communiquer, pour échanger. Donc on retrouve à nouveau pour l'homme le rôle, l'homme et la femme, le besoin de parler dans un cadre qu'on ne connaît pas pour créer un cadre propice à la vie et créer des relations. Alors comment est-ce possible tout cela? Eh bien, c'est possible parce que avant de confier sa mission à l'homme et à la femme, Dieu prononce une parole vivifiante, c'est-à-dire une parole de vie. Qu'est-ce qu'il fait? Le texte nous l'a dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Avant de leur dire maintenant multiplier, cultiver et compagnie, Dieu les bénit. C'est-à-dire qu'il utilise aussi sa parole pour souhaiter de bonnes choses. Il a d'abord une considération pour ses interlocuteurs, et une considération bienveillante, avant de leur dire quelque chose. Et il ne faut pas oublier qu'on est avant la chute. C'est-à-dire que là, Adam et Ève sont en permanence en relation avec Dieu. Et quand Dieu les bénit et leur dit qu'il les aime, ils ont une conscience permanente de l'amour de Dieu. Ça ne change pas, ils sont totalement confiants là-dedans, ils sont en sécurité. Et puis ils ont l'exemple de Dieu, ils ont l'exemple de celui qui, avant de parler, les bénit. Donc, ils vont pouvoir faire pareil, s'ils se rappellent. Ils vont pouvoir faire pareil, et s'élancer dans l'inconnu, dans l'imprévisible des relations, dans l'imprévisible de la vie, de tout ce qui les attend, et en utilisant leurs paroles, en faisant comme Dieu. Donc le paradis, c'est surtout pas l'absence de différence, surtout pas l'absence d'inconnu. C'est au contraire, donc c'est, comme je le mets aussi, c'est pas la maîtrise de toute situation, c'est plutôt la confiance dynamisante en Dieu qui nous permet de gérer sereinement et sainement la différence et l'inconnu pour créer de l'ordre, de la beauté et de la relation. Alors ça, c'était pour Adam et Ève. Et pourquoi c'est si difficile maintenant ? Parce que à l'époque d'Adam et Ève aussi, se passe la chute. Et la chute va briser énormément de choses et rendre cette mission qui ne s'arrête pas pour autant, la mission n'est pas, Dieu n'annule pas la mission à cause de la chute, hein, et ça va la rendre beaucoup plus difficile. D'abord, il y a un changement de position de l'homme. L'homme était sous Dieu, là, l'homme se fait Dieu. Vous serez comme des dieux, c'est ce que dit Satan. L'homme se fait Dieu sur lui-même, il se fait Dieu sur l'autre, et il se fait Dieu sur Dieu. Quand on dit, mais pourquoi Dieu, tu ne réagis pas là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Quand on voit ces attentats ou ces drames d'hier soir encore. T'es où Dieu là ? On se fait Dieu sur Dieu, on lui demande des comptes. Et Dieu, l'âme pardon, accepte aussi d'autres dieux sur lui. Et c'est ce changement de position va amener des conséquences dramatiques. Premièrement, le mensonge, des visions déformées de Dieu. Qu'est-ce que dit Adam à Dieu en Genèse 3 ? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Alors je me suis caché. On était dans la confiance permanente et on passe à la peur. L'image de Dieu a été changée. La peur de Dieu. D'autres mensonges, je ne les cite pas tous, mais Dieu ne peut pas comprendre mes luttes. Dieu veut que je sois gentil avec tout le monde. Dieu me désapprouve si j'échoue, comme le faisaient mes parents. Dieu me rejettera si je fais ceci ou si je ne fais pas cela. Image déformée de moi, je vaux moins que les autres, je n'ai aucun talent. Mes peurs, mes colères, mes tristesses sont des sentiments inacceptables pour un chrétien. Je dois plaire pour être aimé. Voilà ce qu'on peut entretenir. Image déformée des autres, mais les autres ils sont meilleurs que moi. Puis ils n'ont jamais peur, ils ne sont jamais en colère, ils ne sont jamais tristes. Ils respecteront ma vie chrétienne seulement si je suis parfait. Et ça, c'est un mensonge, encore une fois. Seul Christ est parfait. Et d'ailleurs, notre imperfection prouve que l'appartenance à Christ est une grâce. Donc vouloir démontrer le contraire, c'est quelque part envoyer un message faux aux gens. Donc des images déformées. Et ça a comme conséquence, tous ces mensonges-là, eh bien, d'abord, une des difficultés à accepter la coexistence du bien et du mal. Alors là, je m'explique. Chez moi, il y a de très bonnes choses. Et chez vous aussi, et dans le monde aussi. Et puis chez moi, il y a aussi des très mauvaises choses. Et chez toi aussi, et dans le monde également. Et ça, ça nous gêne. Ça, on a du mal à vivre avec ce fait qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses en même temps. Vous serez comme des dieux. On a toujours envie d'être plus que ce que l'on est. On est encore dans ce truc-là. Vous serez comme des dieux. Et le moi idéal, qui est heureusement, il existe. On a une vision d'un moi meilleur, etc. Parce que ça nous motive aussi pour changer. Ce moi idéal, quand il commence à juger et à condamner le moi réel, là, ça pose problème. Ça crée une division interne. Et ça a des conséquences qui sont non négligeables. Et j'en liste quelques-unes. Pas pour dire qu'on est tous là-dedans, mais pour donner des exemples, pour qu'on concrétise ce que ça veut dire d'avoir ces problèmes de gestion de ce bien et du mal coexistant. Bon, il y a des choses qui me concernent, qui me concernaient et dont j'ai guéri, et d'autres qui me... encore. Perfectionnisme et sa version plus romantique, l'idéalisme. Culpabilité, intolérance à la faiblesse, intolérance au péché, intolérance à la frustration, fureur, parce que quand on n'aime pas être frustré, eh bien on tombe dans la fureur. Et la fureur, pour gérer des relations, c'est pas le meilleur outil. Ça aide pas. Mauvaise image de soi, anxiété, panique, dépression, dépendance, nourriture, alcool, drogue, pornographie, jeu d'argent, etc. Succession de relations brisées, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient affectives. Quand dans ce boulot, il y a quelque chose qui commence à plus me plaire, c'est nul, je m'en vais, je change. Quand chez lui ou chez elle, ça ne me plaît pas, ben je change de copine, et ainsi de suite. Ça, ce sont quelques symptômes de la difficulté à accepter la coexistence du bien et du mal, suite de la chute. Autre suite, difficulté à agir en adulte. Et quelques symptômes sur ça, la peur des différences. Différence de vie au sens large. Des pensées en noir et blanc. C'est soit noir, soit blanc, soit vrai, soit faux, soit bon, soit mal. C'est jamais gris, c'est jamais nuancé. Là, on est dans le raisonnement de l'enfant, dont parlait Paul tout à l'heure. Et tout est simple. Si la loi le dit, alors il faut le faire. Mais tout ce qui est en dehors de la loi, tu ne rentres pas dans les textes, qu'ils soient bibliques ou pas bibliques, hein, ben c'est que t'es méchant, c'est que tu pêches, c'est tout. Voilà, c'est très binaire, très vite catalogué. Ça, on est dans la difficulté à agir en adulte. Autre exemple ou autre conséquence, besoin excessif d'approbation, crainte d'être désapprouvé, peur de l'échec, culpabilité, sentiment d'infériorité, compétitivité continuelle, anxiété, dépression, dépendance, etc., etc., etc. Donc pour résumer, la chute amène les pensées mensongères et la peur. La peur de l'autre, la peur de Dieu, la peur de l'inconnu de la vie. Et face à la peur, il y a un besoin immédiat de contrôler la situation, de garder pied, de maîtriser. Et comment on maîtrise ? Plusieurs façons, mais j'en citerai que deux. Premièrement, la colère. Parce que quand on est en colère, on écrase l'autre, on lui dit de se taire. On l'empêche d'aller dans des discussions, des raisonnements qui vont m'amener là où je ne sais pas, là où je ne vais pas savoir m'en sortir, là où je vais montrer de la vulnérabilité. Donc on domine. Et la colère aussi masque ma vulnérabilité, donne l'impression d'être fort. Mais c'est qu'une impression. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans le milieu professionnel, avec les Anglais, quand ils sont en réunion, ils disent « le premier qui se met en colère a perdu ». Et ça, c'est vrai. Il perd la négociation derrière. Donc ça donne l'impression d'être fort, mais c'est qu'une impression. C'est un mensonge là aussi. Deuxième moyen de contrôler les situations, c'est le légalisme, qui est un refuge devant l'inconnu. Comme je disais tout à l'heure, si c'est écrit, il n'y a pas de problème. Et puis si c'est pas écrit, ah, ça ne peut pas exister. Donc on rejette. Mais le légalisme, Jésus n'a pas arrêté de le dénoncer. Ce n'est pas la solution. Parce que la réalité est bien plus complexe. D'où des difficultés à entrer en relation. La chute a cassé énormément de choses. Et notre mission, qui était de faire du beau et du bon en parlant, eh bien, on n'est plus capable de le faire correctement. On peut bien sûr parler de la pluie et du beau temps sans problème. Mais la relation vraie, pleine, où on gère la différence, pas comme ça, mais plutôt comme ça, de manière complémentaire, et en progressant ensemble, et ça, on a du mal. Alors, est-ce que la conversion va changer quelque chose ? On pourrait se demander. La conversion va d'abord amener une réconciliation avec Dieu. Dieu crée une alliance nouvelle entre lui et nous, et à travers Jésus-Christ. Et ça, ça change les choses immédiatement par rapport aux conséquences éternelles de la chute. C'est-à-dire qu'on passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle, de la mort éternelle à la vie éternelle. C'est immédiat, ça ne se sent pas particulièrement, ce n'est pas un phénomène mystique, mais c'est immédiat. Par contre, pour tout ce qui est comportemental, il n'y a pas de changement immédiat et il n'y a pas de changement facile. Alors, je vais passer un petit peu, quelques minutes, sur ce sujet-là, parce qu'il y a pas mal de choses à clarifier. D'abord, qu'entretenir des relations parce qu'on est chrétien, c'est évident, ça marche facilement, ça c'est faux. Et on entend ça, comme je l'ai entendu plus d'une fois. Et ce n'est pas vrai, c'est pas évident, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on change du jour au lendemain. Ça, c'est du magico-spirituel. Parce qu'il y a le Saint-Esprit, pop, ça va aller mieux. Et parce qu'il y a le Saint-Esprit, ça va aller mieux, ça veut dire que ce n'est pas moi, c'est l'autre qui fait, c'est Dieu qui fait. Moi, je suis pour rien. Et donc, non seulement c'est magico-spirituel, mais en plus, ça me déresponsabilise de mon besoin de changer. Certes, le Saint-Esprit va me changer, mais je suis participant. Je peux ouvrir la porte au Saint-Esprit ou je peux lui fermer la porte. Je suis participant de ma transformation. Donc, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que c'est évident. On doit apprendre et réapprendre de nouveaux réflexes. Quand on a développé pendant des dizaines d'années des comportements où on se protège, on se défend, parce qu'on se sent blessé, parce qu'on a une image de soi ou de l'autre qui est dégradée, qui n'est pas vraie, eh bien ces réflexes qu'on a adoptés pendant 10 ans, ou 20 ans, ou 40 ans, il faut du temps pour s'en débarrasser. Il faut réapprendre. Et à partir de prise de conscience, de justement de ces mensonges qui m'enferment. Et ça, c'est pas simple, ces prises de conscience. Mais il y a de l'aide. Jésus est venu plein de grâce et de vérité, nous dit Jean 1,14. Et dans cet ordre-là, plein de grâce, puis de vérité. C'est dit dans ce sens-là. Et donc, il est important aussi pour nous que nous apprenions aussi à grandir en grâce et en vérité, à réfléchir et à agir par grâce et par vérité. Concrètement, grâce envers mon moi réel, il faut que je me voie tel que je suis et que je commence à m'accepter tel que je suis, même si ça ne me plaît pas, même s'il y a des choses mauvaises en moi. Il faut aussi que j'accepte que c'est comme ça. Quand Paul dit « je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas », il n'est pas divisé. Il sait qu'il y a des choses qui sont désastreuses dans sa vie. Encore, je ne parle pas de l'an avant, mais depuis sa conversion, il y a encore des choses désastreuses et qui font des dégâts, mais il est au clair là-dessus. Il ne se rejette pas. Il a conscience de ça et il apprend à s'aimer. Ça veut dire apprendre à se pardonner à soi-même également. Et moi, j'ai du boulot dans ce cadre-là. Moi, j'ai encore du chemin à faire. Apprendre, si j'apprends à accepter mon moi réel tel qu'il est, avec ses forces mais aussi ses faiblesses, alors je vais petit à petit être capable également d'accepter l'autre avec ses forces et ses faiblesses telles qu'il est. Grâce envers moi, mais aussi envers l'autre. Grâce et vérité, parce que la grâce ne suffit pas. Pourquoi la vérité ? Vérité sur moi, sur Dieu, sur les autres, sur la vie au sens large. Parce que Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Donc si on se prive de la vérité, on reste dans l'emprisonnement. On reste encore prisonnier dans mon sang. La vérité vous rendra libre. Et pour la petite histoire, c'est dommage, mais on vient à Christ parce que nous sommes pécheurs, on se reconnaît pécheurs, mince, il faut un sauveur, et on demande à Dieu de nous sauver. On vient à Christ parce qu'on est pécheur. Et pour certains, on passe notre vie entière à essayer de démontrer qu'on n'est pas pécheur après la conversion. Et là, il faut être cohérent. Il faut être cohérent, on n'a pas une vitrine à entretenir, on est comme on est. Et donc, il est important de prier que Dieu révèle cette vérité sur nous. Qu'on lui demande quelles sont nos entraves, quels sont les mensonges, les fausses croyances que l'on entretient, quelles sont les choses qui sont encore biaisées et qui ont besoin d'être transformées. Et Dieu le fera. Et il le fera en son temps. Parce que Dieu, dans sa bienveillance, sait aussi ce qu'on est capable de supporter à tel instant. Je vous ai dit, moi, il y a un mois, j'ai compris des choses qui... J'ai 46 ans, donc qui m'ont taraudé pendant 46 ans, pratiquement. Et il m'a fallu 19 ans de vie chrétienne pour arriver à ce moment-là. Donc Dieu est patient, il fait les choses et il le fait au bon moment. Et prions. Et ce que je vous invite à faire, c'est quand vous rentrez chez vous, après le culte, c'est de prier, Seigneur, j'en suis où dans tout ça ? Parmi toute cette liste sombre que l'on a balayée et les etc. qu'on n'a pas vu, j'en suis où dans tout ça ? Parce que Dieu veut vraiment nous transformer, mais pas pour nous écrabouiller, pour nous amener à un mieux-être et un mieux-être ensemble. Et pour ça, il faudra aussi peut-être un accompagnement. Il ne faut pas en avoir peur. Un accompagnement, par contre, digne de confiance. Et la communauté est là pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il faille dire tous nos problèmes à tout le monde, mais trouver au sein de la communauté quelqu'un de confiance, une personne, deux personnes, à qui on peut dire « j'ai mal là » ou « j'ai du mal dans tel domaine » et « j'aimerais bien qu'on prie ensemble, j'aimerais bien en parler ». Et relisons Jacques 5, c'est ce qu'il dit, Jacques 5. Confessez les péchés les uns aux autres, parce que la guérison passe par là. Ça ne veut pas dire à tout le monde, mais à quelqu'un de confiance. Et l'accompagnement, il peut aussi être en dehors de l'Église, chez des spécialistes, quand c'est nécessaire. Quand les drames de la vie ont été profonds, quand les cicatrices sont profondes, il faut pas. C'est pas un mal que d'aller voir un spécialiste. Quand on a l'appendicite, on ne fait pas que prier. On va chez le chirurgien. Demander et recevoir le pardon de Dieu et des autres. Ça aussi, c'est nécessaire pour retourner en relation. Demander et recevoir, accepter le pardon des autres. Mais aussi, demander pardon aux autres. Ça aussi, il faut savoir le faire. Ça fera partie du cheminement grâce et vérité. Ensuite, il faut accepter qu'il faille du temps pour tout ça. Du temps pour moi et du temps pour l'autre. Ce n'est pas immédiat. Ça prendra jusqu'à notre mort. On est en apprentissage sur Terre jusqu'à notre mort. Donc il y a des choses qu'on va découvrir tout le temps. Il ne faut pas en avoir peur, mais c'est comme ça. Et il faut être patient dans ce processus-là. Enfin, ce n'est pas sans risque et ce n'est pas sans souffrance. Ça ne se fait pas facilement. Quand Dieu met le doigt sur quelque chose, aïe, mince, j'en suis là. C'est vrai, j'en suis là, mais c'est, comme je le mets, c'est le chemin vers la guérison. Et il faut comment dire, être au clair sur le fait que ça ne se fera pas sans difficulté personnelle. Ça va nous ébranler, mais c'est nécessaire. Alors tout ça, ça nous mène vers quoi? Le but, c'est de nous amener à devenir spirituellement adultes. Spirituellement adulte, c'est quoi? Et bien, c'est ce que nous disait Paul tout à l'heure, dans les Corinthiens 13. Lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, etc., etc. L'adolescence spirituelle, le fait de devenir adulte, un adolescent c'est un adulte en devenir, hein, c'est une phase de transition, eh bien, c'est de passer du raisonnement de l'enfant en bien noir, enfin en noir blanc, en bien mal, etc., très binaire, qui quelque part s'accroche à des textes, là, ça me rassure, à un raisonnement plus complexe, celui de l'adulte. L'adulte qui accepte mieux le gris, la nuance, l'inconnu, le fait qu'on ne sache pas, justement, le mystère et l'ambiguïté dont Paul parle en disant « je vois de manière obscure », c'est-à-dire que je ne connais pas grand-chose sur Dieu au bout du compte. Et plus on grandit en maturité spirituelle, plus on se rend compte qu'on n'y connaît pas grand-chose. Que toutes nos belles convictions, toutes nos listes de versets qui disent « Dieu c'est ça, la vie c'est ça, toi c'est ça », ben, finalement, ce n'est pas si vrai. Ça tombe vite... ça ne marche pas. C'est étonnant. Plus on grandit en maturité, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Grandir en maturité, c'est se dégager de l'autorité des lois humaines, c'est comme ci, comme ça, pour se placer sous l'autorité d'amour de Dieu. Paul le dit. La plus importante de ces choses, c'est l'amour, ou la charité, dans le texte qui nous était dit. Et donc, quand on arrive là, on est plus proche de Dieu, parce qu'on reconnaît que sans Dieu, on ne peut rien faire, on n'y comprend rien, on a besoin de prier davantage pour s'en sortir un peu mieux, pour faire un pas de plus dans la vie, dans l'inconnu ou vers l'autre. Quand on en est là, eh ben, nous n'affirmons pas tout savoir. Nous reconnaissons que notre théologie n'a pas réponse à tout, et notamment au problème de la souffrance. Si on revient à la notion de la toxicomanie de tout à l'heure, là, des dépendances ou du harcèlement, par rapport à la souffrance que l'autre vit en face de moi, notre théologie n'a pas réponse à tout. Et on découvre ou on éprouve davantage le besoin de prier pour demander la sagesse de Dieu. Donc finalement, moins on en sait, et mieux on se porte, entre guillemets. Mieux on en sait, mieux on va devoir dépendre de celui qui bénit avant de parler, de celui qui lui sait. Je ne vais pas développer parce qu'on n'a pas le temps, mais je vous invite à le relire. Je ne sais plus où c'est, j'ai regardé la référence hier soir et j'ai oublié. C'est l'exemple des disciples de Jésus qui ramassent du blé un jour de sabbat. Et la loi interdit de ramasser le blé, d'aller travailler pendant le sabbat. Mais ils ont faim. Et Jésus leur dit « T'as faim, mais moi je t'aime. » Il y a la loi, certes, mais elle est dépourvue d'amour. Mais moi je t'aime. Et je te demande de ramasser, ou je t'autorise à ramasser le blé pour aller en manger, sinon tu vas mourir de faim. Peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, on passe bien d'une loi stricte à une loi d'amour de Dieu. Ça, c'est la maturité. Alors, Jésus était mûr, lui, heureusement pour nous. Voilà. C'est bien devenir mature spirituellement. Mais, car il y a un mais, il y a un choix à faire. Et ce choix, il est à faire à chaque seconde. Chaque rencontre, chaque fois que je rencontre quelqu'un, chaque fois que le téléphone sonne, dès qu'on va se rencontrer à la fin du culte, dès que vous rencontrez votre patron ou votre collègue de travail, il y a un choix à faire. Est-ce que je vais agir par grâce et vérité? Est-ce que je vais rentrer dans ces changements qui ne sont pas immédiats, mais est-ce que je rentre là-dedans, qui m'amène petit à petit à devenir adulte? Ou au contraire, est-ce que je m'en sors tout seul comme d'habitude? Il y a un choix à faire, qui n'est pas simple. Et moi, combien de fois par jour j'échoue là-dedans? Je me trompe de chemin. Heureusement, je suis unique. Vous êtes mieux. Non, ça fait partie de « les autres sont meilleurs que moi ». Hein, mais d'accord. sortie des dysfonctionnements. On est tous pareils, tous dans la même barque. Voilà. On échoue, faut être clair, faut être vrai. Et en même temps, se faire grâce. Ce n'est pas une fin en soi. Alors, avec ce qu'on a vu, on a vu notre vocation, notre mission, créer des relations édifiantes par la parole, en parlant. On a vu que la chute nous en rend pratiquement incapables, que la conversion ouvre des pistes intéressantes, elle propose un renouveau pour lequel on a un choix à faire, mais un renouveau qui peut prendre du temps. Alors, est-ce que ça nous permet de retrouver notre vocation, tout ça ? Alors, pour synthétiser un peu ce qu'on a vu et conclure, retenons ces choses. C'est que ce n'est pas automatique de retrouver la vocation. Ce n'est pas automatique, apprentissage sur Terre, encore une fois. Ça demande un engagement personnel, mais c'est un engagement qui est fondé sur ce que Dieu dit ou ce que Dieu a fait, sur des vérités que je mets immuables de Dieu. En apprentissage sur Terre, il faut qu'on reconnaisse nos limites. On n'est pas capable d'y arriver bien tout seul. On n'est pas capable d'y arriver bien. Pour des relations profondes, réelles, où on sait aborder des gens, où on sait aborder la souffrance, on sait aborder la différence. Et il faut rendre pour ça sa place à Dieu. Sans Dieu, on n'y arrivera pas. Et rendre sa place à Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut rappeler l'amour inaltérable de Dieu pour nous, qui nous sécurise. Adam et Ève, avant la chute, avaient cette conscience permanente que Dieu les aimait et ça les sécurisait. Eh bien, de la même façon, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. Par contre, il faut se le rappeler, parce que bien souvent, on a l'impression qu'il n'est pas là. La conscience de Dieu qui peut durer des années, et on peut douter. Et malgré tout, il dit que ça ne change pas. Donc, se rappeler que Dieu nous aime, et ce n'est pas simple. Hein. C'est vite dit, là, mais ce n'est pas simple. Se rappeler la toute-puissance de Dieu, y compris pour me transformer. Je ne suis pas le plus pourri du monde, incapable d'être renouvelé par le Saint-Esprit, non. Dieu est toujours plus fort que moi pour me changer et me retrouver là où j'en suis. Ensuite, se rappeler la démarche de Dieu. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Jésus l'aima et il dit. Alors, si Jésus l'aima, puis il lui dit, si Dieu prend le temps de considérer avec bienveillance la personne avant d'entamer la relation en elle-même, de rentrer dans le vif du sujet, si Dieu prend le temps de bénir la personne, alors sans doute que moi aussi, je suis invité à faire pareil. Se rappeler ça, comment Dieu fait, que c'était l'exemple pour Adam et Ève. Et ensuite, prier avant de parler, avant d'ouvrir la bouche, prier que le Saint-Esprit m'inspire, qu'il me donne des paroles de sagesse, pertinentes par rapport à la situation, des paroles édifiantes, vivifiantes, qu'il faut qu'on procure quelque chose qui fait vivre. Et puis peut-être, et souvent, ce sera d'abord le silence. Le Saint-Esprit m'inspirera d'avoir le silence pour écouter. Mais quand il faudra parler, parce qu'il faudra bien parler à un moment donné, que ce soit à propos, de manière constructive. Comme on l'a dit, ne pas hésiter à se faire aider, parce que ce n'est pas simple, et parce qu'on est dans la barque ensemble pour s'épauler les uns les autres. C'est hyper important. On ne peut pas grandir isolément du reste. Donc ne pas hésiter à se faire aider, il n'y a pas de honte à dire qu'on a du mal, parce qu'on a tous du mal. On a tous du mal. Ce n'est pas la peine d'entretenir une vitrine, on a tous du mal. Donc allons-y. Et allons-y où ça ? Eh bien, dans notre mission. Osons refléter Dieu par des paroles vivifiantes, c'est-à-dire qui apportent quelque chose qui permet de construire la vie, pour construire des relations. Et quand je dis oser refléter Dieu par des paroles vivifiantes pour créer la relation, ça inclut le fait de dire sa colère quand c'est nécessaire, quand elle est légitime. Ce n'est pas juste être gentil, etc., etc. Sinon, on est des béni-oui-oui, et on n'est pas des béni-oui-oui. Ça inclut le fait de dire sa colère, mais le dire d'une manière qui va édifier, qui fait qu'ensemble, on va pouvoir progresser plutôt que de sulfater tout le monde. C'est ça, la différence. Dernier mot, au pluriel, persévérer collectivement. Parce que ce n'est pas simple. L'autre, il a le droit à l'erreur. Et moi aussi, j'ai le droit à l'erreur. Et pour ça, il faudra grandir en grâce, envers moi-même, envers l'autre, mais aussi grandir dans la vérité. Et ne pas avoir peur de la vérité. Grandir dans la vérité. Et pour ça aussi, il faut du temps. Il faut du temps. Si l'autre a le droit à l'erreur, c'est parce qu'il a aussi le temps de grandir. Et si j'ai le droit à l'erreur, c'est parce que j'ai le temps de grandir aussi. Et si j'accorde pas le temps, si tu n'as pas le temps, si c'est tout de suite maintenant, ça ne marchera pas. Et dans la barque, tout à l'heure, ça ne va pas très vite. Mais quand on apprend petit à petit à ramer plus, tous en synchro, eh bien la barque elle avance un peu plus vite. Mais des fois, il faut des séances d'entraînement pour y arriver. Donc il faut du temps. Jésus l'aima, puis il dit. Et moi, je fais quoi ?